Bonjour tout le monde. Toujours un honneur d'être dans l'Assemblée des Justifiés pour partager la parole avec vous ce matin. Donc c'est à mon tour de saluer le départ de notre frère pour le séjour éternel. Et je remercie le Seigneur parce que pendant un an et demi à la cellule de Saint-Jean, eh bien, Quétan avait donné sa personne, son cœur, il nous avait enseigné vraiment d'excellents enseignements musclés, robustes, comme l'était sa voix. Donc c'est une page de notre histoire qui se tourne. Et comme les académiciens tantôt ont chanté, l'Éternel a donné, l'Éternel a ôté, que son nom soit béni. Ce matin, dans cet élan d'adoration et de louange, on pourrait partager un peu sur ces deux thèmes. Il y a une différence entre ces deux choses, mais elles sont intimement reliées. En bout de ligne, l'un aboutit à l'autre. On ne peut pas faire l'un sans faire l'autre. On pourrait dire que l'adoration, on adore Dieu pour qui il est. Et on le loue pour ce qu'il a fait. Donc on l'adore pour son immensité, sa majesté, sa puissance, sa grandeur, son caractère. L'adoration est rattachée à la personne même de Dieu. Et on le loue pour les multiples bienfaits qu'il a fait, pour ses hauts faits dans la création, qui fait partie de ses hauts faits. La perfection de ses œuvres, eh bien, sont le reflet de la perfection de sa personne. En d'autres termes, il fait cela parce qu'il est comme ça. Et parce qu'il est grand, eh bien, il va faire des choses à la grandeur et la réputation de cette grandeur-là. Et on l'adore pour tout cela et on le loue pour cela. Cependant, la louange, c'est ce qui nous conduit vers l'adoration. C'est ce qui nous prépare. C'est une porte même vers l'adoration. Quand on loue le Seigneur, nos cœurs s'ouvrent à son amour. Notre esprit s'ouvre à sa sainteté. Quand on loue le Seigneur, notre foi s'anime, notre foi est en éveil. Et lorsqu'on l'adore, eh bien, on se prosterne devant lui. Dans la parole de Dieu, les multiples appels à l'adoration et à la louange sont souvent à l'impératif. C'est adorer le Seigneur, peuple de Dieu, adorez-le. C'est comme un commandement. Mais c'est un commandement qui n'est pas tout à fait un commandement. Et je vais m'expliquer, donnez-moi une chance. Ce n'est pas un commandement dans le sens un chef qui parle à son subalterne et puis qui arrive ici, pousser des cris de joie. J'ai donné un ordre. Quel plaisir que Dieu aurait là-dedans à recevoir une telle louange. C'est... Voilà comment c'est un commandement. Si Dieu nous fait grâce, s'il nous accorde de le voir, et lorsqu'on est dans sa présence, si on voit sa grandeur, si on voit sa beauté, alors là, ce qu'il est commande mon admiration. Ça commande que je le contemple. Ce que je vois me dit de me prosterner. Et même ma propre personne peut m'exhorter à le bénir. Mon âme bénit l'Éternel. David parle à lui-même. On se parle souvent aussi à nous-mêmes, là. C'est, vous savez combien de fois qu'on se parle. On ne dit pas tout le temps à nous-mêmes les bonnes choses. Mais lorsqu'on se commande, c'est comme si David se réveille un matin, il se regarde dans le miroir et puis dit, mon petit gars, loue le Seigneur. Et c'est pour ça que je dis, c'est un commandement qui vient si j'ai vu quelque chose. L'adoration, tout part de la rencontre avec Dieu. Ce n'est pas une connaissance technique, ça n'a rien à voir avec la technique. C'est une rencontre avec Dieu, c'est un cœur à cœur, c'est une face à face, c'est un yeux dans les yeux, comme on dit. On pourrait dire que l'adoration, pour le peuple de Dieu, c'est l'aspect le plus intime qu'on puisse vivre avec notre Créateur. Et la louange serait l'aspect peut-être le plus affectif. Parce qu'on s'exprime devant ce Dieu. Il voit les élans de notre cœur. Et il tient à les voir. C'est ça qui est merveilleux. Il y tient. Il veut voir qu'est-ce qu'on a en dedans. Et c'est la raison pour laquelle le psalmiste va dire que tout ce qui est en moi loue son Seigneur. Je ne sais pas vraiment tout ce qui est en moi, parce que je n'ai pas vraiment étudié. Je n'ai pas pris une loupe. Mais on a des connaissances de base quand même de nous. Il y a notre volonté, notre capacité d'aimer, nos facultés intellectuelles, nos facultés cognitives, facultés mentales, notre imagination, notre sens de créativité, nos expressions artistiques, même que l'expression corporelle est bienvenue dans cette forme de louange, nos émotions, tout ce qui est en nous. Un bon Québécois, voilà ce que David dit, que mes tripes louent le Seigneur. Ça vient du trip. Et pour Dieu, ça va être trip. Dieu veut le voir en nous. Lorsque Dieu s'est choisi un peuple, Isaïe 43, 11, il a dit pourquoi. J'ai formé un peuple afin que ce peuple publie mes louanges. C'est comme si Dieu voulait dire, si toutes les gens de la planète ne veulent pas publier mes louanges, vous, mon peuple, vous allez le faire, je compte sur vous. Vous me connaissez, je me suis révélé à vous, je me suis montré à vous. Aujourd'hui, nous avons été transportés par les académiciens. Vous savez, jouer d'un instrument et que le Seigneur nous permet d'entrer dans sa présence, on va voir que la parole de Dieu nous dit c'est une gloire. On entend rarement cela, mais vous allez voir, c'est pas moi qui le dis, c'est la parole, je vais vous donner la référence. Tato. Mais avant, si l'orgueil précède tout cela, ça peut nous amener dans une chute vertigineuse d'une monstruosité incroyable. Allons regarder comment c'était avant. Je vous invite à tourner à Ézéchiel 28. Et puis le verset. On pourrait partir du verset 13 jusqu'au verset 15, Ézéchiel 28. Et là, la parole de Dieu va parler de Lucifer avant qu'il devienne l'adversaire de Dieu, parce que Satan veut dire adversaire. Il dit, tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, de sardoine, de topaz, de diamant, de chrysolite, d'onyx, de jaspe, de saphir et d'escarboucle, d'émeraude et d'or. Tes tambourins et tes flûtes étaient à son service, préparés pour le jour où tu fus créé. Tu étais un chérubin protecteur, aux ailes déployées. Je t'avais placé et tu étais là sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Tu as été intègre dans toutes tes voies. Jusque-là, la lecture est formidable. Et voilà, depuis le jour où tu fus créé jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. On nous parle d'un être qui est habité dans une forme de magnificence. Tous les pierres précieuses qu'on a parlé, à peu près, j'en ai déjà vu deux seulement. Je ne sais pas si vous avez déjà vu de la sardoine. Dans les films, j'ai vu un diamant. Saphir, je ne sais pas ce que c'est. Mais ça a l'air d'être beau. Il est paré, il est dans une magnificence extraordinaire. Regardez ce qui est écrit. Il dit, les tambourins et les flûtes étaient à ton service. Et ils étaient là préparés pour le jour. Donc les instruments précédaient la création. Ils étaient avant, tout comme la terre précédait la création de l'homme. Dieu place dans un environnement. Il crée d'abord l'environnement pour que lorsqu'on vient, que nos cœurs soient déjà disposés à le louer. Les instruments précèdent la création des anges. Maintenant, je ne veux pas aller dans un côté technique, mais brièvement, je vais le faire. Il y a les tambourins il y a trois catégories d'instruments. Et peut-être les instruments qui sont là, nos instruments terriens, peut-être reflètent un peu les instruments célestes. Il y a les percussions. Il y a comme on appelle des instruments avant. Et puis il y a les instruments à cordes. Ici, on parle des tambourins qui fait partie des percussions, c'est-à-dire il est responsable du rythme qu'il y a dans le ciel. Il y a les flûtes qui est un instrument plus mélodieux. Et plus tard, on nous dit qu'il joue de la luth qui est un instrument harmonieux, c'est-à-dire qui permet d'accompagner la louange céleste. Regardez ce qui est écrit. Ils étaient préparés pour le jour où tu fus créé. On ne parle pas pour tous les anges, seulement pour lui. Il se peut que cette capacité, ce don que Dieu lui a donné, il se peut qu'il ait été le seul à l'avoir. Parce que tous les autres passages nous parlent que les anges louent l'Éternel, mais on ne nous parle pas des instruments qui jouent. Il est peut-être le seul. Et c'est un aspect glorieux. Mais, comme tu nous disais souvent, mystère opaque, impénétrable. Cherchez pas à comprendre comment l'iniquité fut trouvée en lui. Maintenant, regardez qu'est-ce qui va être dit des instruments si on s'en va dans Isaïe 14, 11. Ça, c'est après sa chute. Il dit, ta magnificence, on parle maintenant de Satan. Tantôt, c'était de l'ange de lumière, Lucifer, maintenant, c'est de Satan. Ta magnificence est descendue dans le séjour des morts avec le son de tes luttes. Les luttes d'autrefois, c'est la guitare d'aujourd'hui. Dehors avec ta guitare. Regardez, ta magnificence, ça faisait sa gloire d'avoir cette capacité-là. Mais l'orgueil a trouvé une niche dehors avec le son de tes instruments. Il se peut que la musique ait joué un rôle dans la chute de Satan. Il se peut que... Mais maintenant, on va voir un autre aspect. Si on va dans le psaume 108, où ce que je disais que... d'avoir la capacité de jouer d'un instrument et d'être reçu par le Seigneur. Et soyez pas en peine, hein, parce que je ne parle pas seulement des académiciens de la CRN, je parle de vous, parce que vous êtes tous nés avec un instrument de musique qu'on appelle la voix, et vous avez un deuxième instrument qu'on appelle les mains. La parole de Dieu dit « battez les mains ». Ça bouge. Je veux voir même ton expression corporelle devant moi. Une fois, c'est une anecdote, c'est un ami aussi, j'avais parlé de cette expression corporelle que Dieu nous invite à nous exprimer même jusque-là, en louange, bien entendu. Et puis, je parlais du verset qui disait « battez des mains ». Puis mon frère... pas tellement à l'aise, il est un peu coincé dans la chose. Il dit, ben, ça dépend des cultures. Ça, c'est pour certaines cultures. Peut-être, tu sais, dans la tienne, là, ça bouge comme ça, là. C'est plutôt ça. Et lorsqu'on a été dans le texte, psaume 56, il dit, vous tous, habitants de la terre, battez des mains. Maintenant, j'ai une question pour vous. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui habite pas sur la terre ici, là? Dieu veut voir notre joie dans notre cœur, dans notre esprit et dans notre corps. Partout, tout ce qu'on n'est pas laid devant lui. Il n'y a rien de laid devant lui lorsqu'on est habité par son esprit. Psaume 108, écoutez, il dit, c'est le psaume de David, bien entendu, « Mon cœur est affermi, ô Dieu, je chanterai, je ferai retentir mes instruments, c'est ma gloire. » Je le redis. Mon cœur est affermi, ô Dieu, je chanterai, je ferai retentir mes instruments, c'est ma gloire. C'est glorieux d'être dans la présence de Dieu et de s'exprimer. L'adoration, on est couché par terre, on disparaît quasiment devant cette grandeur. Mais dans la louange, on ne disparaît pas, on s'assume. L'artiste roi, ici, voilà ce qu'il va dire. On va voir que l'artiste roi fait des chansons, il compose, il est poète, il est danseur devant l'Éternel. Il dit, « Réveillez-vous, mon luth et ma harpe, je réveillerai l'aurore. » Lui, c'est pas le matin qu'il réveille, hein? C'est pas le réveil qui le réveille. « Je réveillerai l'aurore », ça veut dire ça, l'orange aura un impact dans les lieux atmosphériques. Je te louerai parmi les peuples éternels. Je te chanterai parmi les nations. Le caractère de sa louange aura un caractère international. Et ça n'a rien à voir avec Internet ou ce qu'on peut passer un tube devant la planète. Il faut comprendre l'arrière-plan. Israël a été formé par Dieu pour publier ses louanges aux autres nations pour faire connaître. C'est dans cet esprit-là. Et lui, en tant que roi, il a un accès privilégié avec d'autres chefs de nations. Et dans cette sphère aussi, je parlerai du Dieu que j'ai. Je le ferai connaître. J'élèverai mon peuple à ce que les autres peuples entendent la louange de Dieu. Donc, sa louange a un impact sur l'atmosphère. Il a un impact sur les autres nations. Il dit, car ta bonté s'élève au-dessus des cieux, ta fidélité jusqu'aux nuées. Il trouve 1 000 et 100 000 raisons lorsqu'on lit les psaumes. 100 000, 10 millions de raisons pour louer le Seigneur. Et c'est pour ça aux académiciens, que vous venez de faire un pas vers la louange, que Dieu nous garde toujours dans l'humilité. Elle précède la gloire. Si vous voulez avoir cette gloire-là que David a, il faut. Parce qu'un jour, vous aurez des offres. Un jour, quelqu'un trouvera que ta voix est trop belle pour chanter qu'à l'église seulement. Il me semble, avec la voix que tu as, tu pourrais... Et c'est le temps de dire non, je veux louer le Seigneur encore et encore et encore, c'est ma gloire. Lorsqu'on y pense, le Seigneur, il habite quelque part. C'est difficile de dire où ça, dans les cieux invisibles. Je pense que tu nous es dans les célestes. Puis toi, tu nous disais, c'est un lieu qui n'est pas comme un genre de lieu, c'est les célestes. Et la parole de Dieu, lorsque Salomon a fait le temple de Jérusalem, il dit, Dieu n'habitera pas dans un temple fait de main d'homme. Bon, là, on a un problème, là. Où ce qu'il habite, on veut aller l'adorer, parce qu'il n'y a plus de distance entre nous et Dieu. Il faut que l'adorateur soit en présence de l'adoré. Donc, il n'est pas ici dans l'église, il n'est pas au sous-sol, il n'est pas au centre belle parce que c'est fait de main d'homme. Il n'est pas dans un château, il n'est pas dans une mosquée, mais où est-ce qu'il est? Il dit, mon temple ne sera pas fait de main d'homme. La réponse se trouve dans Corinthiens et plusieurs réponses. Il dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit. Alors, il faut remonter à Adam et Ève qui ne sont pas faits de main d'homme, qui sont faits de la main de l'Éternel. Et nous, nous avons été recréés en lui. Nous sommes son ouvrage, dit la parole de Dieu. Nous sommes créés en Jésus-Christ. Nous sommes pas faits de main d'homme. Ce type de nouvelle naissance, la parole de Dieu le dit, la volonté de l'homme n'y est pour rien. Elle est incapable de produire ce type de naissance, lesquelles sont nées non de la volonté de l'homme. Ce n'est pas l'œuvre de l'homme, mais celle de Dieu. Alors là, il peut habiter en nous, parce que nous ne sommes pas faits de main d'homme. Nous sommes faits de sa main. C'est extraordinaire. Lorsqu'il dit « ne savez-vous pas », ce n'est pas une information que les apôtres manquaient. Il voulait les amener dans une plus grande prise de conscience de ce qu'ils savaient. Tout comme peut-être parmi nous, nous sommes le temple du Saint-Esprit. Mais à quelle conscience qu'on le réalise? À quel niveau? C'est gros cette affaire-là. Dieu prend un grand risque aussi. Là. Il prend un risque qu'on attriste son Saint-Esprit. En venant habiter en nous, ben oui, c'est un risque énorme. Et on l'a attristé souvent de fois. Et la bonne nouvelle, c'est que lorsqu'on attriste le Saint-Esprit, lui aussi communique cette tristesse à nous pour que nos cœurs soient attristés aussi. Pour qu'on puisse entrer, pour qu'on puisse faire la joie du Saint-Esprit qui habite en nous. Dieu habite en nous. Il est au milieu de nous. Il est là en esprit. Les temps avec lui doivent être des temps forts. On ne peut pas tout le temps avoir des temps forts, mais nos assemblées doivent être un temps fort avec le Seigneur. Tout comme avec nos épouses, on n'a pas tout le temps des temps forts. Mais il y a des anniversaires, des moments qu'on, ça prend un temps fort, ça prend un dîner, ça prend quelque chose de plus. Nos conventions, pardon, parce que M. Guétan ne voulait pas que je dise ça, il préférait congrès. On va lui accorder ça. Nos congrès. C'est des temps forts. Il y a eu la dédicace du temple qui a été un temps fort. Et la parole de Dieu nous dit qu'il y avait 120 sacrificateurs qui sonnaient de la trompette devant le Seigneur. Et ce qu'il ajoute, c'est formidable. Ils étaient tous d'un même accord. Il fait un jeu de mots, accord musical et accord de cœur. Harmonie musicale qui reflète l'harmonie de cœur lorsqu'on a, quand on loue le Seigneur. C'était tous de même accord. C'était pas un lieu où on se comparait. Lorsqu'on se compare, il y a rivalité en quelque part. C'est un lieu où on ne voit que lui. La gloire revient à lui. Parce que lorsque quelqu'un nous dit, par exemple, tu prêches bien, pasteur Jeff, c'est un genre de louange qui vous fait quand même. Oui. C'est pour ça que nous, on doit rendre cette gloire à Dieu. C'est à lui que ça appartient. Constamment, la reconnaissance doit toujours précéder notre louange. Donnons-lui gloire, gloire, honneur. Dites qu'est-ce qu'il a fait pour nous. Par le témoignage, par la prière, par des cantiques, par des cris puissants. Exprimez-vous dans tout ce que vous avez. Écoutez, vous connaissez l'histoire du gars qui était à la belle devant... pas la belle, qu'est-ce que je dis? Bon, le boiteux, c'était... Oui, c'est ça, la porte appelée. Merci. Le gars, ses jambes fonctionnent pas. Bon. À la rigueur, ça peut même lui nuire, ses jambes-là, parce que ça rend encore son corps plus lourd. Maintenant, lorsque les apôtres du Seigneur ont dit, j'ai ni or ni argent à t'offrir, mais je te donne ça au nom du Seigneur, le gars est guéri. Qu'est-ce que la Bible dit? Ce gars-là, il était entré dans le temple, pas en dehors, dans le temple. Il sautait et louait Dieu. On pourrait dire que ce gars-là est un flyer. Non, 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 non. Il n'est pas un flyer. Mets ton nom à sa place. On a des gens qui nous pourrissent l'existence et puis tout d'un coup, on retrouve une vigueur au nom de Jésus-Christ. Mais le gars veut essayer ses nouvelles jambes-là. Lorsque David enlève ses habits royaux. C'est un geste spontané. Je ne sais pas s'il y a vraiment une raison, vraiment. Il faudrait voir la culture s'il y avait ça, mais c'est un geste spontané. Il y a ce caractère spontané dans la louange. Il y a ce caractère où ce que... C'est spontané, c'est comme lorsque la parole dit « vous bondirez de joie ». Il y a des moments lorsqu'on considère qu'est-ce que Dieu a fait pour nous, qu'est-ce qu'il est, comment il nous a délivrés, comment il a changé notre situation. Là, ça poigne pour le louer. Et si tu ne le fais pas, tu te sens mal. Il y a des fois, si tu loues pas le Seigneur, lorsque tu considères, lorsque tu le vois, si tu ne loues pas, tu as mal. Ça devient un besoin vital pour le louer et ce n'est plus une obligation, ce n'est pas une obligation du tout. C'est un besoin vital, je l'ai vu. Louons le Seigneur vraiment, que nos bouches rendent témoignage. Il y a un aspect dans la louange qui a beaucoup d'autorité parce que notre foi s'anime. Premièrement, il y a beaucoup de bienfaits pour nous aussi qui louent. Parce que lorsque nous louons le Seigneur, lorsque nous disons qu'est-ce qu'il a fait pour nous, eh bien, nous permettons à la chose qu'il a fait pour nous de demeurer et d'avoir toujours un impact dans nos vies. Parce que lorsqu'on oublie, eh bien, la chose qu'il a fait pour nous aussi perd son impact. Il y a un autre caractère qui est rempli d'autorité. Lorsqu'il dit « je réveillerai l'aurore », c'est que même si les démons entendent ma louange, même s'ils ont la démangeaison lorsque je loue, parce que Satan est jaloux de Dieu, et il est jaloux de nous autres aussi, on loue quand même le Seigneur. Il y a un aspect dans la louange qui a de la puissance, et voici la selle. C'est lorsque nous louons le Seigneur en proclamant sa parole. Ça a une puissance qu'on ne peut pas imaginer. Le louer, mais en proclamant sa parole. Parce que ce n'est pas notre louange qui est puissante, mais c'est sa parole. Louer, c'est proclamer, c'est déclarer, c'est remercier. Proclamer, ce n'est pas chuchoter. Proclamer veut dire crier devant. Je proclame, je crie devant. Et lorsque je crie devant, eh bien, il se passe des choses. Dieu se manifeste. Et le psalmiste dit, je m'écris. Il ne dit pas, je chuchote. Je m'écris, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de mes ennemis. Il y a un impact. Parce que ma foi est agissante. Je proclame qui il est dans ces temps d'épreuve et d'adversité. Et c'est ce qu'on appelle le sacrifice de nos lèvres. Qui dit sacrifice, ça implique une notion de perte. Le sacrifice de nos lèvres, c'est une louange qu'on fait à Dieu dans des temps d'adversité, dans des temps difficiles. La vie de notre Seigneur Jésus-Christ était une vie remplie de sacrifices de louange. Et c'est pour ça, même lorsqu'on chante un chant, il faut faire attention lorsqu'on dit « nous apportons dans ta maison un sacrifice de louange, un sacrifice d'adoration ». Il faut faire attention. Dans la parole de Dieu, on nous montre plein d'exemples de sacrifices de louange. Mais il n'y a aucun sacrifice d'adoration. Lorsqu'on est transporté dans sa présence pour l'adorer, ce n'est pas un sacrifice. Aucun exemple de sacrifice d'adoration. Mais il y a plein d'exemples de sacrifices de louange. Par exemple, les jeunes, une des choses, lorsque Dieu vous donne cette conviction, aujourd'hui dans les jeux vidéo, si vous savez comment on banalise le mot de Dieu, on attaque les dieux ici, il y a les dieux ici, on s'est banalisé. Le nom qui devait être sanctifié est banalisé dans l'oreille des jeunes qui jouent à tuer Dieu. Et puis des fois, il y a des jeux où c'est eux qui sont le Dieu, c'est pilule. Et un jeune qui ose dire... Ce jeu-là, je ne joue pas avec. Il y en a un Dieu et il est vivant. Ça devient un sacrifice de louange. Ça devient un sacrifice de voir que les autres vont dire, ah, regarde lui, quoi, cette histoire-là. Oui, notre foi est en éveil lorsqu'on loue le Seigneur. Notre connaissance aussi est en éveil lorsqu'on loue le Seigneur. Il y a un autre texte que j'aimerais partager. J'espère le trouver parce que j'avais perdu mes notes avant de venir. Parce qu'en vieillissant, on va faire face à trois grandes difficultés, dit-on. La première, on va avoir des pertes de mémoire. La deuxième, je ne m'en souviens plus. Et la troisième, encore moins. C'est un gars qui louait le Seigneur, il allait se marier, et puis il était pétant, il est content. Et puis il va trouver le Seigneur, il dit, « Seigneur, pourquoi as-tu créé ma femme si belle ?» Le Seigneur lui dit, « Ben, c'est pour que tu l'aimes, mon enfant. » Ok, d'abord, mais Seigneur, j'ai une autre question pour toi. Pourquoi as-tu créé ma femme si naïve? Alors là, mon gars, c'est pour qu'elle t'aime. Un coup dur, hein, celle-là. Un petit brin de vérité là-dedans. Hein? C'est pour ça que j'ai profité d'un petit moment d'égarement de ma femme, parce qu'elle a dit, oui, je le veux. Et puis j'ai profité de cette opportunité, et puis... Alors, ce même gars a eu 50 ans de mariage et puis il est devenu plus mature, en tout cas en principe. Il s'en va voir le Seigneur et puis il dit, « Seigneur, j'aimerais que tu fasses quelque chose pour moi. Tu es capable, tu es tout puissant. J'aimerais en un claquement de doigts, tu fasses rajeunir ma femme de 30 ans. Je veux la voir comme dans le temps, là, une petite jeune, là, Seigneur. Tu vois ce que je veux dire, Seigneur? Tu es capable de faire ça pour moi? » Seigneur dit, « Oui, je suis capable de faire ça pour toi. » Le Seigneur fait... Et l'homme a vieilli subitement de 30 ans. Donc, il voulait avoir une petite jeune. Voilà. Des fois, on prie mal. Des fois, on loue mal. Et c'est un peu caricatural, mais c'est ça devant Dieu que ça fait. Et lorsque le Seigneur dit, ce peuple m'honore des lèvres, ça veut dire théologiquement, ce qu'il dit est correct. Il m'honore des lèvres, c'est des bons honneurs, théologiquement, ça peut être parfait. Mais son cœur est éloigné de moi. La louange, l'adoration, c'est une affaire de cœur. Ce n'est pas une affaire technique, c'est une affaire de cœur. Et puis, il faut étudier notre propre cœur, ou plutôt le sonder, ou plutôt apprendre à le connaître. Qui peut le connaître, mais avec la parole de Dieu, on peut apprendre à connaître notre cœur grâce à la parole de Dieu. Parce que la louange sied aux hommes droits. Pour que Dieu fasse son siège parmi nous. Dieu peut faire un temple, il a fait de nous un temple, mais faire de nous un siège, ça c'est encore plus grand. Il sied. Dans les dimanches matins, dans nos assemblées, dans les temps où nous tous chrétiens nous réunissons, tout partout, nous devons assiéger Dieu par nos louanges. Nous devons lui donner un bain de louange. Il est digne, il le mérite. Alors, dans le texte de Corinthiens, 2 Corinthiens 3, versets 15 à 16. Alors, pas vite, on va tourner. Alors, il y a quelque chose que seulement dans l'adoration, qu'on peut expérimenter. Je pense que c'était 2 Corinthiens 3, 15. Je pense que c'est 15 à 18. Il dit... Jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, un voile est jeté sur leur cœur. Mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Nous tous, le visage découvert, contemplons dans un miroir la gloire du Seigneur. nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, par le Seigneur, l'Esprit. Et ça, c'est une expérience qu'on peut faire seulement dans l'adoration. Lorsque nous adorons, nous contemplons. Et il faut prendre aussi le temps de le contempler. À force de contempler quelque chose, la chose qu'on contemple s'imprègne en nous. On commence à ressembler à la chose qu'on contemple. Je vais vous donner un exemple. Lorsque j'ai commencé à faire la musique à l'âge de 18 ans, un peu tard, j'ai commencé ma cours de piano. Et puis, j'ai commencé à découvrir des compositeurs. Et j'ai découvert un compositeur qui s'appelait Chopin. Lorsque j'entends l'œuvre de cette... J'étais abasourdi de voir qu'un être humain pouvait composer d'aussi belles choses. Et je commençais à admirer ce compositeur qui n'était pas de mon temps, qui est né, qui est mort depuis des siècles, mais que son œuvre était là. Puis je commençais à aller comprendre qui est Chopin à travers son œuvre, à travers ses écrits. Puis je contemplais tellement son œuvre que graduellement, je commence à jouer un peu de Chopin aussi. Ce n'est pas les cours qui me faisaient jouer, c'est l'admiration que j'avais pour lui. Et même pour les idoles. C'est la même chose pour les idoles. Vous voyez, ils marchent comme leurs idoles, ils parlent comme eux. Dans un temps d'idolâtrie, j'étais un idolâtre. Dans un temps d'idolâtrie, j'idolâtrais Michael Jackson. Regardez-moi bien, je n'ai pas l'air de ressembler. C'est vrai, là. Mais croyez-le ou non, je m'étais arrangé pour avoir la coupe de cheveux de Michael. Je m'étais fait défriser les cheveux pour avoir cette coupe. Et puis, vu que ce n'était pas naturel d'avoir une coupe comme ça, il fallait avoir plein de gel pour que ça se tienne, là. J'avais son petit manteau de cuir. Puis, si je devais aller au dépanneur m'acheter du lait, j'y allais en moonwalk. Et dans mes choses, faisait ce petit cri efféminé qu'il faisait. Je voulais ressembler parce que je l'idolâtrais. Même pour les idoles. Quelqu'un a dit, la faveur, il y a quelque chose qu'on peut imiter des idolâtres, bizarrement. Il dit, la faveur qu'ils ont pour leurs idoles, si on pouvait avoir cette même faveur pour Dieu. Eh bien, si on contemple le visage de Dieu, la parole de Dieu nous dit, nous sommes transformés en la même image. En la même image. C'est dans les temps, il faut prendre le temps de le contempler. Pas une petite vite, là. On s'assoit, puis on te contemple. C'est vraiment extraordinaire. La louange, écoutez, la prédication un jour prendra fin. On n'aura plus besoin de prêcher. Parce qu'il va être là devant nous. Il est là. La louange va continuer. Le prédicateur est amené souvent à parler de Dieu. Le louangeur est amené souvent à parler à Dieu. C'est un privilège d'être dans sa présence. Entrons dans sa présence. Entrons avec un cœur reconnaissant. La reconnaissance précède toute louange. S'il n'y a pas ce facteur-là, ça devient de la flatterie. Et puis on pourrait même le faire théologiquement correct, bibliquement correct. Mais ce cœur-là, Dieu veut le voir. Il aime ce qu'il a fait de vous, de nous. Gloire à son nom. Vraiment, gloire à son nom. La parole de Dieu nous dit, Jésus-Christ a chanté les cantiques aussi. Et les cantiques, c'est-à-dire, il était avec le peuple de Dieu. Et s'il chante un cantique, ce cantique-là est approuvé du Père. Ça, c'est certain. Il est un louangeur par excellence parce qu'il connaît le Père. Il le connaît comme ses propres entrailles. Puis remarquez bien, la parole de Dieu n'en parle pas comme d'un événement, comme si une de gros mégastars ou gros rappeurs viendrait chanter ce matin. Bon, disons Céline, parce que nous l'aimons presque tous, là. Ce serait un événement. Parce que Jésus-Christ chante, ce n'est pas comme un événement. Pourquoi? C'était son mode de vie. Il chantait les cantiques, c'était dans son mode de vie de donner gloire à son Père, de rendre hommage à son Père. Lui aussi marchait sur les avenues de la louange. Il connaissait la gloire de ce Père. Parce que lorsqu'il a terminé son œuvre, il dit, redonne-moi la gloire que j'avais auprès de toi. Remarquez bien, il ne dit pas de me donner une gloire que je n'avais pas avant. Je l'avais déjà, cette gloire-là. Donc, il sait qu'il est en train de louer. Et pour avoir cette pleine conscience de qui on loue, eh bien, il faut être conscient que nous sommes son temple. Il est plus proche de nous qu'on peut le penser. Il n'y a aucune distance entre lui et nous. Et même lorsque nos péchés veulent créer une distance, la croix est toujours là pour rendre l'accès libre auprès de notre Père. Encouragez les académiciens. Vraiment, encouragez-les. C'est un instrument de musique ne se laisse pas jouer facilement. Je vous prie de me croire. Encouragez-les. Et puis, priez pour qu'ils restent dans l'humilité. Je vous en supplie. Je suis musicien, je sais ce que je vous demande là. Je sais ce que je vous demande. Priez, vraiment priez, afin qu'ils restent tout le temps dans l'humilité. Ça prend un petit rien dans ce domaine-là qu'on commence à s'élever. Un petit rien. Une petite critique mal formulée, et puis c'est parti. Que le Seigneur nous garde, et puis... J'avais oublié mes notes. Bon, ben, je me suis pris avec ça. Donc, que le Seigneur nous garde. Amen.